VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Conflit au Soudan du Sud, le chef de l'ex-rébellion sud-soudanaise Riek Machar était attendu aujourd'hui dans la capitale Djouba, où il doit prendre ses fonctions de vice-président, ce qui est une étape incontournable pour la mise en œuvre concrète de l'accord de paix. Mais aux dernières nouvelles, Riek Machar n'arrivera que demain à Djouba. Au Tchad, un ressortissant français, Thomas Dietrich, se présentant comme un opposant au régime de N'Djamena, a été expulsé aujourd'hui vers le Cameroun, après avoir été arrêté à N'Djamena. Les autorités tchadiennes l'accusent d'avoir menti sur sa demande de visa. Plus de détails avec notre correspondant dans la capitale tchadienne, André Kodmajingar.
Arrivé au Tchad via Cameroun avec un visa au motif familial, le gouvernement tchadien qui trouve le motif de son séjour au Tchad fallacieux puisqu'il n'a aucune famille à N'Djamena, décide de l'expulser ce lundi matin avec le premier vol. L'auteur d'un roman sur le Tchad intitulé « Les enfants de Toumaï » a publié sur les réseaux sociaux qu'au Tchad, les violations des droits humains sont monnaie courante. Il cite en exemple l'arrestation des leaders de la société civile, les manifestations souvent réprimées dans le sang, et les menaces qui pèsent sur toute personne qui conteste la réélection du président Déby. Thomas Dietrich affirme être venu au Tchad pour aider la société civile, l'opposition démocratique et le peuple tchadien en général qui aspire à un changement. Avec la situation sociopolitique délétère à l'heure actuelle, le gouvernement tchadien trouve que c'est une plaisanterie subtile et qu'il faille se débarrasser de lui avant qu'il ne soit trop tard. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Congo-Brazzaville, le président congolais Denis Sassou Nguesso a été investi samedi pour un nouveau mandat de 5 ans après sa victoire contestée par l'opposition à la présidentielle anticipée du 20 mars. Il a prêté serment à Brazzaville devant la Cour constitutionnelle, mais dans un environnement sécuritaire précaire dans la région du Pôle où se trouve la capitale. Le Parti congolais du travail, PCT, formation au pouvoir, en attribue la responsabilité à une partie de l'opposition. On écoute Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT.
Les opposants candidats à l'élection présidentielle étaient 8. Il y en a qui ont bien pris acte du résultat de l'élection. Il y en a d'autres qui ont contesté. On ne leur reproche pas le fait de contester. Mais pourvu qu'ils prennent les voies légales de contestation. Et c'est ça la démocratie. Mais quand on verse dans l'illégalité, on appelle à l'insurrection, on crée les conditions de trouble, ce n'est plus la contestation. Ça génère la violence, ça génère l'insécurité. On sait déjà ce qu'on a vécu à partir du 4 avril. Quel pouvoir, dans ces conditions, restreint indifférent. Quel pouvoir. On a vu ce qui s'est passé le 4 avril. C'est une rébellion qui fait usage des armes, qui brûle les symboles de l'État. Et ça diffuse dans une démocratie.
Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT à Brazzaville.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, au Mali, le conducteur du véhicule ayant servi au transport du commando, auteur de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, a été arrêté samedi à Manyamougou, l'un des quartiers populaires de Bamako. Plus de précision avec notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Alou Doumia Diman est le nom du chauffeur qui a transporté les assaillants qui ont attaqué Grand Bassam. Après cette attaque, il a abandonné son véhicule en Côte d'Ivoire pour revenir au Mali par la route. Alou Doumia vient d'être arrêté par les éléments de la force spéciale de la DGSE malienne. C'était le samedi 16 avril 2016 vers 20h dans l'un des quartiers populaires de Bamako, Mayamougou. L'arrestation d'Alou Doumia Diman s'inscrit dans le cadre de la poursuite des investigations engagées par la sécurité d'État à la suite de la fusillade de Grand Bassam. Tout laisse à croire que l'implication de Alou Doumbia ainsi que d'autres suspects dans une telle aventure prouve une urbanisation du terrorisme. Ce qui veut dire que ce sont des citadins qui cèdent très facilement à l'appel du gain. Le chauffeur des assaillants de Grand Bassam a 30 ans. Il travaillait dans la filière de transport et de vente de véhicules d'occasion. A signalé qu'avant Alou Doumbia, deux autres suspects de l'attaque de Grand Bassam ont été arrêtés au Mali. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Niger, l'opposition nigérienne réunie au sein de la coalition pour l'alternance COPA 2016 a décidé de retourner au Parlement et de reprendre sa place à la commission électorale. L'opposition justifie son revirement par le souci, dit-elle, de recadrer ses actions pour porter la lutte au sein du Parlement afin d'éviter qu'il soit une simple caisse de résonance. La COPA a également décidé de participer aux élections locales prévues le 9 mai et exige la libération de tous ses militants détenus depuis fin 2015, dont plusieurs ont été élus députés. Au Nigeria voisin, un groupe ayant revendiqué la responsabilité du sabotage d'un important pipeline dans la région pétrolière du delta du Niger promet de multiplier de telles attaques. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le groupe baptisé les Vengeurs du Delta du Niger a proféré ses menaces quelques jours seulement après que le président nigérian Muhammadu Buhari eut promis de sévir contre les vandales et les saboteurs responsables des attaques contre les pipelines du pays. Les Vengeurs du Delta du Niger ont affirmé être à l'origine de l'attaque en février d'un important oléoduc sous-marin du géant pétrolier Shell, ce qui avait forcé cette compagnie a fermé pendant plusieurs semaines son terminal pétrolier de Forcados, par lequel transitent en temps normal 255 000 barils de pétrole brut par jour. La violence et le sabotage des oléoducs se sont intensifiés dans la région pétrolière du delta du Niger depuis que les autorités nigérianes ont lancé en janvier un mandat d'arrêt contre un ancien leader des militants du delta accusé de corruption. Le président Buhari a prorogé le programme d'amnistie de plusieurs milliards de dollars en faveur de ses militants, mais a provoqué leur colère en éliminant les juteux contrats de protection des oléoducs qui leur profitaient.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Conflit en Libye, le ministre britannique des Affaires étrangères est arrivé aujourd'hui dans le pays. Il a rencontré à Tripoli Fayez al-Sarraj, le premier ministre désigné du nouveau gouvernement d'Union nationale. L'ONU, les Européens et les États-Unis tentent d'asseoir son pouvoir dans un pays miné par les violences. Le Parlement libyen, reconnu par la communauté internationale, doit se réunir aujourd'hui dans l'est du pays, à Tobrouk, pour lui accorder ou non sa confiance en présence de l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler. Ce dernier est crucial, Ce vote est crucial pour consacrer la légitimité du gouvernement d'union nationale. Toujours concernant la Libye, crise migratoire, l'ONG SOS Méditerranée a annoncé aujourd'hui la mort d'au moins 8 migrants qui étaient à bord d'un canot à moitié dégonflé dimanche au large de la Libye. Les survivants évoquant une vingtaine de disparus supplémentaires. Le canot, parti en début de matinée dimanche, prenait de l'eau quand le navire de secours Aquarius, affrété par SOS Méditerranée, son partenaire Médecins du Monde, est arrivé à sa hauteur, selon une photo publiée sur le compte Twitter de l'ONG. Les manœuvres de transbordement ont été très délicates. Des réfugiés pris de panique se sont jetés à l'eau au moment des opérations de sauvetage et deux hommes se sont noyés. 6 cadavres ont été découverts au fond de l'embarcation, affirme SOS Méditerranée. Selon les 108 survivants, il y avait plus de 135 personnes à bord du bateau. Des migrants qui sont originaires des pays suivants, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Togo, Gambie, Soudan, Éthiopie et Érythrée. Et toujours concernant la crise migratoire, 203 autres candidats à la périlleuse traversée de la Méditerranée vers l'Europe ont été interpellés dimanche par les autorités qui les ont placés dans un centre de détention. Selon l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, 352 personnes ayant tenté la traversée vers l'Europe sont mortes ou portées disparues depuis janvier. Les précisions de Florence Kim, porte-parole de l'OIM au micro de Jacques Aristide.
Il y aura de la migration et des départs tels, dans des conditions telles, tant qu'on n'aura pas résolu la situation dans les pays d'origine, donc, ou les pays de transit, en Libye, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Donc bien évidemment que le phénomène n'est pas prêt de s'éteindre. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est ça notre priorité aussi, c'est de sauver la vie des migrants et de faire en sorte qu'ils puissent emprunter des voies légales de migration. Par conséquent, c'est vrai qu'en bloquant certaines frontières en Europe, il est évident qu'on ne va faire que favoriser la dangerosité de la migration en forçant les migrants à emprunter des routes illégales par des passeurs sans scrupules.
Florence Kim, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations. Irak, le secrétaire américain à la défense Ashton Carter est arrivé aujourd'hui à Bagdad pour une visite non annoncée. Sa mission, présenter notamment aux autorités irakiennes les propositions des États-Unis pour aider les forces irakiennes à reconquérir Mossoul dans le nord, la deuxième ville du pays qui est aux mains des djihadistes du groupe État islamique depuis juin 2014. Et pour terminer, la justice sud-africaine a décidé de reporter du 13 au 17 juin la procédure visant à définir la peine du champion paralympique Oscar Pistorius, reconnu coupable en appel du meurtre de sa compagne en 2013. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.